Alors j'aimerais que nous lisions un verset de Romains chapitre 5 au verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Et j'aimerais vous parler de l'espérance. Il est dit dans ce verset, un verset très connu, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est intéressant parce que Darby, lui, a utilisé le verbe « avoir honte », enfin l'expression « avoir honte ». Et il est vrai qu'en grec, cette traduction est plus proche, enfin, en traduction de Darby est plus proche du grec, parce qu'en fait, quand il est dit que l'espérance ne trompe point, ça signifie qu'elle ne produit pas de la honte à cause d'une déception. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple nous avons un enfant que l'on éduque, voilà, on lui apprend à manger correctement, à être poli, et ensuite cet enfant va être invité quelque part ou aller à une cérémonie. Et on est content pour lui, on espère qu'il va passer une bonne journée. Et puis peut-être on espère aussi qu'il va bien nous représenter. Et puis patatrac, l'enfant se comporte d'une manière qui fait que on a honte. On espérait que toute l'éducation qu'on a placée dans sa petite vie, qu'on a mis en place, produise du fruit. Et puis il va peut-être se comporter comme le dernier des derniers. Et c'est ça en fait, on espère quelque chose et puis le résultat n'est pas ce que l'on espérait et on a honte de cette espérance. Et là, Paul dit cette phrase intéressante, il dit « l'espérance ne trompe point », c'est-à-dire l'espérance ne doit pas amener de la honte. On ne doit pas être honteux de cette espérance. Et j'aimerais qu'on lise aussi un autre verset avant d'aller plus loin dans Psaume 25, verset 3, où là il est écrit « Tous ceux qui espèrent en toi ne sont point confondus. » Donc c'est un peu la même idée, ils n'ont pas honte. « Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Ceux qui seront confondus, ceux qui auront honte en réalité, seront ceux qui auront été infidèles, qui n'auront pas eu la foi, qui n'auront pas eu confiance, et ils auront été infidèles sans cause, c'est-à-dire qu'ils auront remis en question la fidélité de Dieu, ils auront remis en question l'espérance que nous avons en Dieu, et donc ils auront été, eux, infidèles, et ça produira de la honte. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que parfois on risque d'avoir honte de l'espérance que l'on place en Dieu, je m'expliquerai tout à l'heure ce que ça signifie, alors que le psalmiste nous dit attention, ce qui va produire de la honte, c'est le manque de confiance, c'est l'infidélité que nous allons exprimer d'une manière ou d'une autre. En psaume 25, versets 20 et 21, il est écrit « Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus », synonyme « que je n'ai pas honte », « quand je cherche auprès de toi mon refuge ». Vous voyez, garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Donc, on s'aperçoit que l'espérance est un mot, évidemment, qui, au premier abord, est un mot qui est très positif, qui est teinté de joie. C'est un mot agréable à entendre, le chrétien espère normalement. Nous avons une espérance, on le dit souvent, pour ce monde, mais aussi évidemment pour le monde à venir. Mais quelle est cette espérance? Qu'est-ce que ça signifie, espérer? Qu'est-ce que ça signifie vivre d'espérance? Est-ce que parfois on place pas notre espérance dans des idées, des endroits de notre âme, dans des relations, dans une façon de vivre sa vie chrétienne aussi? Et on va être déçu, alors qu'en réalité, c'était pas là que l'espérance devait se placer. Bien évidemment, l'espérance, on doit l'avoir dans le Seigneur. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, espérer dans le Seigneur? Ça peut être une phrase toute faite. J'espère dans le Seigneur. Ok ? Soyons concrets. Demain, quelqu'un va aller travailler et il sait, ce quelqu'un, qu'un dossier lourd l'attend. Peut-être un conflit latent existe dans l'équipe. Est-ce que cette personne espère dans le Seigneur ? Est-ce qu'elle croit que le Seigneur peut agir ? Est-ce que l'espérance chrétienne sert à quelque chose dans le conflit qu'elle est en train de traverser ? L'espérance, et c'est lié, elle est liée à l'espérance qu'on a dans la parole. C'est-à-dire que si j'ai un souci dans ma vie, dans ma manière de penser, dans un choix à faire, je vais peut-être rechercher dans les Écritures la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut ? Et parfois, ce que je vais lire ne va pas me plaire. Ça va peut-être me heurter, ça va peut-être m'humilier, ça va peut-être me demander de prendre une décision qui est difficile pour moi. Mais est-ce que j'espère dans la Bible ? Est-ce que je crois que la solution est dans le texte ? Parce que si j'espère dans la sagesse de Dieu, appelons-la comme ça, parce que toute la sagesse de Dieu est contenue dans les Écritures, si j'espère dans les Écritures, je vais espérer dans la décision et dans l'obéissance qui va suivre. Qu'est-ce qui fait que souvent on n'ose pas aller de l'avant ou qu'on ne marche pas par la foi ou qu'on n'obéit pas ? Alors des fois, parce qu'il y a la convoitise de la chair, la rébellion, ça c'est une raison. Mais une autre raison, c'est peut-être parce qu'on ne croit pas vraiment que ça puisse marcher. On n'espère pas dans les Écritures. On n'espère pas dans la sagesse de Dieu. Or, Paul nous le dit, le psalmiste nous le dit aussi, l'espérance ne trompe point. Dieu ne ment pas. Dieu dit la vérité. Et vous savez, quand on se retrouve en face de quelqu'un qui dit la vérité, on peut espérer. Imaginons que nous ayons une voiture en panne, et en plus une voiture de collection, une voiture où, voilà, si on ne retrouve pas la pièce ou si c'est pas réparé, c'est peut-être, elle va être immobilisée définitivement, elle va perdre de sa valeur, etc. Donc on l'emmène dans un premier garage, et le garagiste nous dit, je pense qu'on peut rien faire. Deuxième garagiste, pareil. Puis le troisième, il dit, ils vous ont dit des bêtises. Moi, je vous dis que en faisant ça, ça et ça, si on a confiance en ce troisième garagiste, il y a une espérance qui est suscitée par ses paroles. Et alors évidemment, si en plus dans l'expérience, il se trouve que c'est vrai, que la voiture est réparée, on a tout gagné. Mais avec Dieu, il n'y a pas de doute. Je veux dire, il ne va pas nous donner un conseil, il ne va pas faire un constat qui est faux. Donc à partir du moment où nous avons une révélation particulière, où Dieu nous parle dans un domaine ou dans un autre de notre vie, même si ça paraît difficile d'obéir, et peut-être même on a l'impression que ça ne marchera pas, mais si c'est écrit, comme Jésus l'a dit en Matthieu 4:4 au diable, c'est écrit, il y a une espérance dans cette écriture. Lorsque Jésus a répondu au diable, il n'a pas simplement répondu de façon légaliste, en disant « voilà, c'est ça qu'il faut dire ». Tout en se disant « comment je vais manger ?» ou « comment je vais m'en sortir là dans ce désert ?» Non, il a cité les Écritures, il a espéré dans les Écritures, et il a espéré en son Père, peu importe les circonstances. La faim, il n'avait pas mangé depuis 40 jours, pas bu depuis 40 jours, il est en face du diable, lui il est dans son humanité, il ne va pas utiliser sa divinité pour lutter contre le diable, il est obligé de marcher par la foi, de devenir parfaite, mais il espère. Parce qu'il croit, il n'a pas honte de la parole de Dieu ni de son Père. Autre chose aussi que alors c'est Romains 5 qui nous le dit, dans le psaume, c'est pas mentionné, mais c'est important de l'avoir en tête, c'est l'amour de Dieu aussi qui nous permet d'espérer. C'est-à-dire que Dieu nous demande des choses parce qu'il nous aime aussi, pas uniquement pour défendre son point de vue ou pour montrer sa seigneurie. L'espérance ne trompe point parce que nous avons reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Ce qui fait que même si parfois les commandements de Dieu paraissent difficiles, l'amour de Dieu nous permet d'aller au-delà. Vous savez, lorsque certains disciples ont quitté Jésus parce qu'il avait des paroles trop dures, deux raisons majeures ont fait qu'ils ont quitté Jésus. La première, c'est qu'ils ne voulaient pas perdre leur propre vie. Leur façon de penser. Mais une autre raison aussi, j'en suis sûr, c'est qu'ils n'avaient pas idée combien Jésus les aimait. S'ils avaient su à cet instant que Jésus les aimait, ils auraient suivi en disant « comprends pas bien, les paroles sont dures, mais il nous aime, donc qu'est-ce qu'on risque ? S'il nous aime, il va pas nous faire de mal. » Et donc c'est dans ce sens-là que l'espérance ne trompe point aussi. Parce qu'on espère dans l'amour que Dieu a pour nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Et donc c'est ça qui engendre la foi, l'espérance chrétienne. Et donc là, cette espérance a comme pour résultat de ne pas nous rendre honteux. Et j'aimerais vous parler de ça parce que, vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où il y a une pression très forte, officiellement pas forcément sur les chrétiens, mais en tout cas sur les idées chrétiennes, dans plein de domaines. On ne veut pas les nommer, on ne veut pas nommer les chrétiens, mais on nomme les idées chrétiennes et on s'y oppose, on est environné par ça. Et parfois je sens dans mon cœur, mais aussi autour de moi, parmi les réactions des frères et sœurs, parmi les églises, ce qui se dit de part et d'autre, j'ai réalisé que on a parfois honte de ce qu'on croit. Alors évidemment, intrinsèquement, au fond, nous savons que la parole nous dit telle ou telle chose, on a raison. Mais on est comme gêné de confesser la vérité. On est gêné, par exemple, parfois d'utiliser le mot « péché ». Est-ce qu'on a honte de ce mot « péché » ? Parfois, dans certains milieux, on a honte du mot « enfer ». On a honte du mot « jugement ». Mais vous savez, l'Évangile, on sait que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle par rapport à quoi ? Par rapport à une mauvaise. Je ne peux pas annoncer le salut s'il n'y a pas la perdition en face. Je ne peux pas parler de liberté en Jésus-Christ si je ne parle pas de l'aliénation liée au péché. L'aliénation dans les pensées, dans les actions, dans les comportements, dans les paroles, dans les mots. Ce qui fait que à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, on n'espère plus. Parce que quand on espère quelque chose, d'abord on est animé par cette espérance, mais en plus elle est communicative, cette espérance. Vous avez quelqu'un qui va vous dire, demain il va pleuvoir, mais vous, vous savez pertinemment, vous avez plus d'arguments, plus d'informations, plus de connaissances, vous avez vos entrées à Météo France, et vous, vous savez qu'il va faire beau. Vous n'allez pas avoir honte d'annoncer le beau temps, même si tout le monde dit qu'il pleut et qu'il pleuvra demain. Parce que vous, vous avez une espérance. Non, non, demain, il fera beau. Ah non, non, on ne dit pas ça. Hein. Il faut dire qu'il pleut. Sinon, on va t'embêter. Non, 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 non. Moi, je vous dis que demain, il fera beau. Et de la même manière, est-ce que nous espérons dans la résurrection ? Oui. Donc, nous en parlons. Est-ce que nous espérons dans la bonté ? Dans la patience, dans la longanimité, on croit en la tempérance. Et à partir de ce moment-là, on va confesser cette vérité, on va la proclamer, quitte à ce que, peut-être, dans certains cercles, ça ne plaise pas. En 2 Timothée 1,12, il est dit, « C'est à cause de cela que je souffre ces choses », donc Paul souffre, il dit, « Mais je n'en ai point honte ». C'est intéressant parce que on le lit d'ailleurs tout le temps avec Paul, hein, c'est évident. C'est que Paul, il est toujours vu comme un malfaiteur. Il faut qu'il se retrouve à Jérusalem, il est jugé, devant le roi Agrippa, il est jugé, devant César, il va être jugé, il est jugé par le Sanhédrin, il est jugé par dans les synagogues, il est jugé par son peuple, il est jugé en permanence. Il est fautif, en permanence. Mais pourtant, il ne culpabilise pas. Et alors qu'il est en prison. Vous savez, quand on est innocent et qu'on se retrouve en prison, ça peut être très facile de se dire « j'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas ». Il y a peut-être une erreur quelque part. Je parle du comportement chrétien. J'ai peut-être été trop vindicatif, j'ai peut-être été trop loin. Alors dans notre pays, ça, on va pas encore aller en prison pour l'instant pour les idées chrétiennes. Mais dans certains pays, oui. Je veux dire, prenez le... mettez-vous à la place d'un chrétien en pays musulman. Quand est-ce qu'il doit parler? Quand est-ce qu'il ne doit pas parler? C'est pas simple. Mais nous savons sur les Écritures qu'il doit parler. Et en même temps, on sait que Jésus nous a dit d'être rusés comme les serpents, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi non plus. Néanmoins, si un chrétien se retrouve en prison, est-ce qu'on va lui tomber dessus en disant « il a dû faire une erreur quelque part, il n'a pas prié assez, ou alors il y a un péché dans sa vie ?» C'est vite arrivé, l'accusation. Et peut-être que lui-même, le croyant prisonnier, peut se dire « j'ai fait une erreur quelque part », alors qu'en réalité, c'est tout simplement de la persécution. On n'a pas honte de confesser la vérité, même si on nous accuse d'être coupable de dire cette vérité. Et aujourd'hui, dans un monde où il faut surtout pas parler du fait que l'homosexualité est un péché, on peut commencer à avoir honte de dire ça. Mais alors à ce moment-là, on a honte de l'Évangile, on a honte de la Bible. Je ne dis pas qu'il faille y aller avec, vous savez, avec un drapeau militant pour lutter. Non. Mais nous ne sommes pas d'accord, et pas, je dirais pas nous. La Bible dit que le divorce n'est pas de Dieu. La Bible dit que l'adultère n'est pas de Dieu. La Bible dit que la fornication n'est pas de Dieu. La Bible dit que l'homosexualité n'est pas de Dieu. La Bible dit que le lesbianisme n'est pas de Dieu. La Bible dit que la zoophilie n'est pas de Dieu. La Bible dit que le vol n'est pas de Dieu. La Bible dit que le mensonge n'est pas de Dieu. La Bible dit que la triche n'est pas de Dieu. La Bible dit que la calomnie n'est pas de Dieu. La Bible dit que parler derrière le dos des gens n'est pas de Dieu. La Bible dit que l'hypocrisie n'est pas de Dieu. Ce sont des paroles dures à entendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix pour nous délivrer de cela. Et il nous appelle à vivre en nouveauté de vie. Qu'est-ce que l'on peut proposer aux gens si on leur dit « nous, nous croyons en un Dieu qui vous demande de pas changer ?» Bon, bah ok, reste chez toi, moi je reste chez moi, si ma vie, j'ai pas besoin de changer. Reste comme Dieu t'aime. Bon, allez, vas-y, tu peux faire ce que tu veux, Dieu t'aime, il aime tout le monde. Oui, mais d'abord les gens ne connaîtront pas le Dieu vivant par le ministère du Saint-Esprit et vont se retrouver en enfer, ça c'est la première chose. Et à plus court terme, ils vont peut-être être pris dans les filets de l'existence terrestre et ils vont en souffrir et en faire souffrir d'autres. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons dire aux gens, ce que vous nous annonçons, d'un côté, peut-être ne va pas vous plaire, mais d'un autre côté, Dieu peut faire quelque chose. Et vous savez, parmi ces gens qui vont entendre ce genre de message, peut-être que certains vont dire, ah, c'est possible de vivre autrement. C'est possible d'avoir une autre identité. C'est possible d'être délivré de la vaine manière de vivre et de ne plus souffrir dans mon âme. Pourquoi croyez-vous que les gens prennent des calmants, des excitants, de la drogue, soi-disant tout va bien, hein? On s'est débarrassé de Dieu, on s'est débarrassé de la religion, on s'est débarrassé de toute morale, mais pourquoi avez-vous besoin de toutes ces choses pour être heureux? Pour rigoler toute une soirée, il vous faut une certaine quantité d'alcool, une certaine quantité de psychotropes, vous avez besoin de ça? Alors, et vous me parlez de liberté? Personnellement, je peux passer une soirée entière à rigoler à plein poumon, rien qu'en buvant de l'eau. Rien qu'en buvant de l'eau. Est-ce que c'est pas une belle manière de vivre? Il faut à un moment donné avoir un regard objectif sur ce que signifie l'Évangile. Vous savez, à l'époque de Jésus, alors Palestine c'est différent, mais en tout cas, Paul, lorsqu'il a voyagé à Rome, la société qu'il rencontrait n'était pas très différente de celle d'aujourd'hui. Vous savez, quand il est arrivé à Rome, il n'a pas dû voir de belles choses. La cellule familiale était officiellement encore en place pour des histoires d'héritage, de construction de la société, pour assurer les générations, mais la plupart des hommes étaient homosexuels. Plein de gens ne respectaient pas leurs femmes, les femmes ne respectaient pas forcément leurs maris. Et les jeux du cirque, les gens allaient voir non pas un match de boxe, ce qui est déjà un peu particulier, non, ils allaient voir des gens s'entretuer. Il y avait du fanatisme autour de ça. Je veux dire, Paul est arrivé dans un, dans une culture, Corinthe, il en parle très bien. Et pourtant, des gens ont été délivrés de cela. Et ils ont été délivrés parce que Paul a eu un message radical. Une radicalisation, une radicalité dans l'amour, mais une radicalité vis-à-vis du péché aussi. Et qu'est-ce que ça a produit? Regardez ce qui s'est passé à Éphèse. Aujourd'hui, ça se passerait aujourd'hui, on dirait, ces chrétiens exagèrent. À Éphèse, il annonce l'évangile, et puis il dit de mettre toutes les idoles dans le feu, que tout ça, faut que ça cesse. Oui, mais ils en faisaient tellement un commerce. C'est comme si Paul était arrivé à Lourdes. D'accord? Et du coup, il y a les commerçants et tout, ils se plaignent en disant, mais notre gagne-pain, là, il est en train de disparaître. Donc ils vont tous dans une sorte d'agora, enfin dans, et puis ils se réunissent pour faire un procès à Paul, et puis il va être expulsé de la ville après quelques petits coups de fouet ou quelques petites lapidations, enfin je sais plus. Hein, histoire de l'enquiquiner un peu plus. Mais je veux dire, toute une ville a été en ébullition à cause d'un message qui était de dire, regardez à Jésus et arrêtez de vivre comme vous vivez là. Et le message a tellement été cru que ça en a dérangé plus d'un. Et là aussi, on pourrait se dire, mais t'as pas honte de faire ça? T'as pas honte? Et Dieu dit, mais combien d'âmes ont été délivrées? Combien d'âmes m'ont rejoint grâce à un homme comme Paul? Donc, tout ça pour vous dire que ce qui a fait la différence au travers de l'histoire de l'Église, c'était qu'il y a eu des hommes de conviction. Pas violent, mais de conviction. Et la conviction, c'est que la Bible est vraie et j'ai pas honte de parler de la Bible, de ce que la Bible dit. Donc il dit, je n'ai point honte car je sais en qui j'ai cru. Vous voyez cette assurance que nous avons Dieu avec nous. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusque-là. Donc, première chose, quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui a pas honte de Jésus-Christ. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'évangéliser, j'ai eu une bonne discussion avec un homme musulman. On a eu des échanges, on n'était pas d'accord, hein, mais voilà, on a échangé. Et je l'ai trouvé justement doux dans sa manière d'écouter. Alors peut-être qu'aussi j'ai fait attention de ne pas le heurter frontalement, mais en même temps j'ai pas caché la vérité. Et je lui ai dit clairement que c'est Issa, c'est Jésus-Christ qui va le juger. Et que même dans le Coran, c'est marqué que c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Et que tout le monde devra rendre compte devant lui, lui le premier. Et puis j'ai dit d'autres choses, mais si vous voulez, j'ai pas caché l'évangile, j'avais pas honte de Jésus-Christ et de dire qu'il était le Fils de Dieu, couvert par l'Esprit sur Myriam, dans le Coran il s'appelle Myriam, sur Marie, et que oui, il était engendré dans un corps humain et que Dieu a pu s'incarner. J'ai pas eu honte, parce que si j'ai honte de cela, parce que le musulman va être choqué, à ce moment-là, c'est pas la peine que j'évangélise. D'accord? Et je sais pas, la discussion s'est terminée, je lui ai dit, écoutez, je sais que vous allez pas lire la Bible, il me l'avait dit déjà avant, j'encourage à lire la Bible, il dit non, je ne la lirai pas et tout. Je dis, pour le moins, lisez tous les passages dans le Coran qui parlent de Jésus, et demandez à Dieu qui vous parle. Et donc, tout ça pour dire que si le message n'est pas annoncé, comment le Saint-Esprit peut convaincre? C'est par sa parole, inspirée de l'Esprit, que Dieu va agir. La deuxième chose qui fait que l'on espère réellement, c'est qu'on n'a pas honte de l'Évangile. On voit ça dans Romains 1,16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec. Ne pas avoir honte de l'Évangile. Oui, moi je crois qu'il y a un seul Dieu. Oui, je crois qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Oui, je crois ça. Et donc, à partir de ce moment-là, j'annonce l'Évangile. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est pas le discours que les gens ont envie d'entendre. Mais vous savez, quand vous lisez le Nouveau Testament, est-ce que les gens avaient envie d'entendre le discours de Jésus? Est-ce que les gens avaient envie d'entendre le discours de Paul, de Pierre, de Jean? Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient envie de l'entendre. Et pourtant, ils l'ont annoncé. Troisième chose, c'est qu'on n'a pas honte des paroles de Christ. En Marc 8, 38, il est dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles » C'est intéressant, il dit « honte de moi et de mes paroles » au milieu de cette génération adultère et pécheresse, donc vous voyez, il ne va pas avec le dos de la cuillère, hein, où est-ce qu'il se trouve? Au milieu d'une génération adultère et pécheresse. Donc celui qui aura honte de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Saints anges, pardon, pour faire la liaison. Ça, c'est la radicalité de Jésus-Christ. C'est pour ça que, pareil, quand j'évangélise et que je discute avec certaines personnes, elles acceptent souvent intellectuellement que Jésus était un homme bon. Dieu, ils n'aiment pas trop. Le Dieu de la Bible, ils n'aiment pas. Mais le petit Jésus, il est gentil, lui. Alors, c'est le même, on le sait. Mais bon, c'est comme ça. Donc, et je leur dis, ah bon? Et je leur cite des extraits comme celui-là. Je dis, vous parlez de tolérance, Jésus ne l'est pas. Vous parlez de secte, Jésus, il est dans une secte. Jésus dit, il n'y a que par lui qu'il y a le chemin, la vérité, la vie. Il n'y en a pas un autre. Aujourd'hui, dès l'instant que tu trouves ton chemin, c'est bon. On parle souvent aujourd'hui, c'est une expression qu'on lit dans les publications spécialisées sur la religion. Aujourd'hui, c'est le supermarché des religions. Chacun puise ce qu'il veut. Chacun arrive avec son caddie. Je prends un peu de ça, je prends un peu de ça, je prends un peu de ça, je prends ce qui me plaît. Moi, je crois que. Mais ça, c'est pas une bonne espérance. Ça, c'est croire en soi. Je mets dans le panier ce que je veux et j'espère que c'est. Moi, j'espère en ça. C'est un peu comme si se marier avec quelqu'un sous prétexte que le nom de famille lui plaît ou le prénom, mais sans connaître la personne. J'espère que ça va marcher. Mais c'est une espérance qui s'appuie sur rien, là. Tu espères parce que toi, t'aimes bien le prénom de la fille ou du gars. Tu te maries sur ce critère-là. Drôle d'espérance. Ben là, c'est ce que les gens font. Moi, je crois que le bouddhisme, c'est bien. J'aime bien la réincarnation. Et d'ailleurs, Jésus, dans la Bible, il parle, et puis Jean le Baptiste, c'est Élie qui est réincarné. Alors les gens essayent de mélanger tout ça. Et alors, ils sont avec leur caddie, ils prennent ce qu'ils veulent. Et on espère, avec ce cocktail que l'on se fabrique soi-même. Faisons attention en tant que chrétien de ne pas être comme ça. Il y a des passages dans les Écritures, moi j'arrive à obéir, pas, c'est pas un problème. Mais ça, je mets sous un mouchoir. À un bout d'un moment, il n'y a plus l'espérance. L'espérance, c'est quand on dit, on sait que ce livre est entièrement vrai. Et je m'appuie dessus, et je n'en ai point honte. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire que je serai accepté par tout le monde, j'aurai peut-être pas une bonne réputation, je serai peut-être attaqué par quelqu'un, j'en sais rien. Mais je n'ai pas honte de l'Évangile, je sais en qui j'ai cru, je n'ai pas honte des paroles de Jésus, même au milieu d'une génération pécheresse et perverse. Ce ne sont pas les pécheurs et les pervers qui vont m'imposer ma façon de parler. C'est le Saint-Esprit qui va me guider. J'espère. J'espère. Et ça nous amène au quatrième point, c'est que l'espérance fait... Alors attention, celui-là, il est difficile aussi. C'est qu'on n'a pas honte du peuple de Dieu. Ouais, mais quand même... Tout le monde ne se comporte pas correctement. J'ai un peu honte de telle dénomination, j'ai un peu honte de telle église, j'ai un peu honte de ce frère dans l'église, j'ai un peu honte de mon pasteur, j'ai un peu honte. Alors, évidemment, on n'est pas d'accord avec tout ce qui se fait. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment pense Dieu vis-à-vis de ceux qui font des erreurs? Comment pense Dieu vis-à-vis de ceux qui vivent dans la subjectivité? Comment pense Dieu... Lui qui sait tout de la vie de quelqu'un, moi je ne vois qu'une fenêtre de sa vie. En 2 Timothée 1,8, Paul dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, donc là encore une fois, n'aie pas honte d'évangéliser, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » C'est-à-dire qu'on voit que Paul, parce que comme Paul était en prison, il y en a qui avaient abandonné Paul parce qu'ils avaient honte ou peur que leur nom soit associé. Et quand je dis qu'il ne faut pas avoir honte du peuple de Dieu, c'est que même les apôtres ont eu honte de Jésus-Christ et ils l'ont tous abandonné à la fin, à part l'apôtre Jean. Mais comment a pensé le Père ? Le Père, il a pensé selon l'œuvre accomplie. Le Père a pensé selon le sang qui a été versé. Le Père a pardonné aux apôtres d'avoir abandonné son Fils. Le Père a pardonné aux apôtres d'avoir eu honte. Il a pardonné à Pierre de s'être renié 3 fois. Parce que la grâce, mes amis, ça ne s'arrête pas là où elle nous paraît utile et profitable. Mais là, ce genre de péché, c'est pas possible. Ce genre de personne, c'est pas possible. Pas de grâce pour ces gens-là. Jugement, oui. Faisons attention. Le peuple de Dieu est au bénéfice du sang de Christ qui a été versé. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas nommer les problèmes quand il y en a. Paul, il parle d'autres chrétiens dans certaines épîtres, et il les remet à leur place. Il a remis à sa place l'apôtre Pierre, on voit ça dans l'épître aux Galates. Donc, on traite des problèmes. Mais ça n'enlève pas l'amour et la patience, et aussi ne pas avoir un esprit de jugement. C'est de se dire, mais je dois faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils me fassent. Moi-même, je fais peut-être des erreurs ou j'en ai peut-être fait, et j'aimerais bien que les gens soient miséricordieux vis-à-vis de moi. Et donc, je n'ai pas honte même d'un chrétien qui pêche. Après, lui doit se repentir, il doit changer, on est d'accord là-dessus. Mais faisons attention de ne pas rentrer dans un système où on exige tellement de ceux que l'on aime, qu'on en devient sans pitié. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur parle aussi de l'espérance. Alors, rappelez-vous, l'Épître aux Hébreux, il y avait la persécution, les gens étaient retournés dans les synagogues ou au temple parce qu'ils avaient peur d'être vus comme des chrétiens qui, eux, étaient envoyés qui aux galères, qui sur la potence, qui au jeu du cirque. Et donc, ils avaient honte un peu de ce qui était en train de se passer. Et donc, l'auteur dit en Hébreux 6, versets 17 à 20, « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. » Vous voyez, les chrétiens de l'Épître aux Hébreux avaient reçu une espérance, mais ils ne l'avaient plus cette espérance. Et ce manque d'espérance avait engendré de la crainte, et ils étaient retournés dans les synagogues ou au temple. À cause de la persécution, ils devaient se dire « Où est Dieu ?» Ou alors ils devaient se dire aussi « Mais finalement, le culte de l'Ancien Testament, c'est peut-être encore valable. » Toujours est-il qu'ils avaient honte de ce qui était en train de se passer, ils le craignaient, et du coup, ils en avaient oublié l'espérance. En plus, retourner dans le légalisme et dans la loi de Moïse, il n'y a pas beaucoup d'espoir à ce moment-là. Au verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. » C'est-à-dire que nous sommes, l'espérance qu'on a, elle est attachée au-delà du voile, c'est-à-dire le voile du ciel, là, le temple céleste. Tout comme en Romains 5:5, il est dit que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur, c'est-à-dire que c'est un amour qui vient d'en haut. Et bien de la même manière, on a cette espérance qui va au-delà du voile. Et parce que nous méditons sur cette espérance, on n'a pas honte de parler de Jésus, on n'a pas honte de l'Évangile, on n'a pas honte des paroles de Jésus, on n'a pas honte du peuple de Dieu, on n'a pas honte des paroles de vérité. On n'a pas honte, on n'a pas honte, on n'a pas honte. Parce que nous avons été replacés dans notre dignité première, nous sommes vus comme étant sans péché à l'image de Dieu, mais aussi nous croyons digne le message que nous portons, nous croyons digne l'espérance que nous proposons. On n'a pas à en avoir honte de cette espérance. Oui, il y a une autre façon de vivre. D'abord, nous essayons de la vivre, et ensuite, nous essayons d'en témoigner de cette espérance. Et donc, nous possédons comme une encre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Vous voyez, l'espérance, c'est pas ah, le chrétien, il a la foi, il espère, alléluia, tout va bien. Ok, tu espères en quoi? J'espère en ce message. Tout ce qui est dit, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, j'espère dans cette parole. Ne pas retirer un iota de cette parole, j'espère en cette parole. J'espère en Jésus-Christ, j'espère au salut en Christ, j'espère dans les promesses de Dieu, j'espère dans le peuple de Dieu, j'espère, j'espère, j'espère. Donc je n'ai pas honte. On ne peut pas espérer quelque chose si on a honte de cette même chose. En revanche, quand on a des convictions issues des Écritures, ça produit une espérance qui fait de nous des gens qui n'ont pas honte. On se sent pas coupable. Moi, on a beau vivre en France, dans un pays majoritairement athée, postmoderne, tout ce que vous voulez, moi, j'ai pas honte d'être chrétien. J'ai pas honte d'attendre avec, assurance. Vraiment, c'est dans la profondeur de l'âme, le retour de Jésus-Christ. Oui, je crois que Jésus va revenir. Oui, je crois dans la résurrection des corps. Oui, je crois, et donc j'espère que Dieu vous bénisse.